Chapitre 12. André Léry, la semaine suivante, reçut cette lettre à trois écritures. Mercredi 27 avril 1904. Nous ne sommes jamais si sottes qu'en votre présence, et après, quand vous n'êtes plus là, c'est à en pleurer. Ne nous refusez pas de venir encore une fois, qui sera la dernière. Nous avons tout combiné pour samedi, et si vous saviez quelle ruse de Machiavel! Mais ce serait une rencontre d'adieu, car nous allons partir. Sans en perdre le fil, suivez bien tout ceci. Vous venez à Istanbul devant Sultan Selim. Arrivé en face de la mosquée, vous voyez sur votre droite une ruelle qui a l'air abandonnée entre un couvent de derviches et un petit cimetière. Vous vous y engagez et elle vous mène après 100 mètres à la cour de la petite mosquée Tosunaga. Juste en face de vous, en arrivant dans cette cour, il y aura une grande maison très ancienne, jadis peinte en brun rouge. Contournez-la. Derrière, vous verrez s'ouvrir une impasse un peu obscure, bordée de maisons grillées avec des balcons fermés qui débordent. Dans la rangée de gauche, la troisième maison, la seule qui est une porte à deux battants, et un frappoir en cuivre, et celle où nous serons à vous attendre. N'amenez pas votre ami, venez seul, c'est plus sûr. Jenan. À partir de 2h30, je serai au guet derrière cette porte entrebâillée. Mettez encore le fez et autant que possible un manteau couleur de muraille. Elle sera plus que modeste, cette toute petite maison de notre rendez-vous d'adieu. Mais nous tâcherons de vous laisser un bon souvenir de ces ombres qui auront passé dans votre vie, si rapide et si légère que peut-être douterez-vous après quelques jours de leur réalité. Mélec. Et pourtant, si légère, elles ne firent point plume au vent, emportées vers vous au gré d'un caprice. Mais le premier vous avait senti que la pauvre Turque pourrait bien avoir une âme, et c'est à cela que voulurent nous dire merci. Et cette aventure innocente, si courte et presque irréelle, ne vous aura pas laissé le temps d'arriver à la lassitude. Ce sera dans notre vie une page sans verso. Samedi, avant de disparaître pour toujours, nous vous dirons bien des choses, si l'entretien n'est pas coupé, comme celui d'Ayoub, par une émotion et une fuite. Donc à bientôt, notre ami Zayn Bey. Moi, qui suis le grand stratégiste de la bande, on m'a chargé de dessiner ce beau plan que je joins à la lettre pour que vous vous y retrouviez. Bien que l'endroit ait un peu l'air d'un petit coupe-gorge, que votre ami soit sans inquiétude, rien de plus honnête ni de plus tranquille. Re-Mélec, Mélec Oursus. Et André répondit aussitôt, poste restante au nom de Zaïdé, 29 avril 1904, après-demain samedi à 2h30, dans la tenue prescrite, fez et manteau couleur de muraille, j'arriverai devant la porte au frappoir de cuivre, me mettre aux ordres de trois fantômes noirs. Leur ami, André Léry. Chapitre 13. Jean Renaud, qui augurait plutôt mal de l'aventure, avait en vain demandé la permission de suivre. André se contenta de lui accorder qu'on irait avant l'heure du guet-apens fumer ensemble un narguilé suprême sur certaines places qui jadis lui avaient été chères et qui ne se trouvait qu'à un quart d'heure à peine du lieu fatal. C'était à Istanbul, bien entendu, cette place choisie au cœur même des quartiers musulmans et devant la grande mosquée, le Mehmet Fatih ou Sultan Fatim, Mehmet le conquérant, Mahomet II, qui est l'une des plus saintes. Après les ponts franchis, une montée et un long trajet encore, pour arriver là, en pleine turquerie des vieux temps, plus d'Européens, plus de chapeaux, plus de bâtisses modernes. En approchant à travers des petits bazars restés comme à Bagdad, ou dans des rues bordées d'exquises, loin fontaines, de kiosques funéraires, d'enclos grillés enfermant des tombes, on se sentait redescendre peu à peu l'échelle des âges, rétrogradée vers les siècles révolus. Ils avaient une bonne heure à eux, quand, au sortir de ruelles ombreuses, ils se retrouvèrent en face de la colossale mosquée blanche, dont les minarets à croissant d'or se perdaient dans le bleu infini du ciel. Devant la haute ogive d'entrée, la place où ils venaient s'asseoir est comme une sorte de parvis extérieur que fréquentent surtout les pieux personnages, fidèles au costume des ancêtres, roses et turbans. Des petits cafés centenaires s'ouvrent tout autour, achalandés par les rêveurs qui gossent à peine. Il y a aussi des arbres à l'ombre desquels d'humbles divans sont disposés pour ceux qui veulent fumer dehors. Et dans les cages pendues aux branches, il y a des pinsons, des merles, des linots, spécialement chargés de la musique dans ce lieu naïf et débonnaire. Ils s'installèrent sur une banquette où des imams s'étaient reculés avec courtoisie pour les faire asseoir. Près d'eux vinrent tour à tour des petits mendiants, des chats affables en quête de caresses, un vieux à turban vert qui offrait du coco frais comme glace, des petites bohémiennes très jolies qui vendaient de l'eau de rose et qui dansaient, tous souriants, discrets et n'insistant pas. Ensuite, sans plus s'occuper d'eux, on les laissa fumer et entendre les oiseaux chanteurs. Ils passaient des dames en domino tout noir, d'autres enveloppées dans ces voiles de damas qui sont en soie rouge ou verte avec grand dessin d'or. Ils passaient des marchands de mou, et alors quelques bons turcs, même de belles robes et de belles allures, en achetaient gravement un morceau pour leur chat, et l'emportaient à l'épaule, piqués au bout de leur parapluie. Ils passaient des Arabes du Hedjaz en visite à la ville du calife, ou encore des derviches, quêteurs à longs cheveux, qui revenaient de la Mecque. Et un bonhomme de 100 ans au moins, pour un demi-sou, laissait faire au bébé turc deux fois le tour de la place, dans une caisse à roulettes qu'il avait très magnifiquement peinturlurée, mais qui cahotait beaucoup, sur l'antique pavage en déroute. Auprès de ces 1000 toutes petites choses, indiquant de ce peuple le côté jeune, simple et bon, la mosquée d'en face se dressait plus grande, majestueuse et calme, superbe de lignes et de blancheur, avec ses deux flèches pointées dans le ciel pur du 1er mai. Oh, les doux et honnêtes regards! Sous ces turbans, les belles figures de confiance et de paix, encadrées de barbes noires ou blondes. Quelle différence avec ces levantins en veston qui, à cette même heure, s'agitaient sur les trottoirs de Péra, ou avec les foules de nos villes occidentales, aux yeux de cupidité et d'ironie, brûlés d'alcool. Et comme on se sentait là bien, au milieu d'un monde heureux, resté presque à l'âge d'or, pour avoir su toujours modérer ses désirs, craindre les changements et garder sa foi. Parmi ces gens assis là, sous les arbres, satisfaits avec la minuscule tasse de café qui coûte un sou, et le marguilé berceur, la plupart étaient des artisans, mais qui travaillaient pour leur compte, chacun de son petit métier d'autrefois, dans sa maisonnette ou en plein air. Combien ils plaindraient les pauvres ouvriers en troupeau de nos pays de progrès qui s'épuisent dans les îles effroyables pour enrichir le maître. Combien leur paraîtraient surprenantes et dignes de pitié les vociférations avinées de nos bourses du travail ou les inepties de nos parlottes politiques entre deux verres d'absinthe au cabaret. L'heure approchait. André Léry quitta son compagnon et s'achemina seul vers le quartier plus lointain de Sultan Selim, toujours en pleine Turquerie. Mais par des rues plus désertes où l'on sentait la désuétude et les ruines. Vieux murs de jardin, vieilles maisons fermées, maisons de bois comme partout peintes en ces mêmes ocres foncées ou brun-rouges qui donnent dans l'ensemble de Istanbul sa teinte sombre et font éclater davantage la blancheur de ses minarets. Parmi tant et tant de mosquées, celle de Sultan Selim est une très très grande, dont les dômes et les flèches se voient des lointains de la mer, mais c'est aussi une des plus à l'abandon. Sur la place qui l'entoure, point de petit café ni de fumeur. Et aujourd'hui, personne dans ces parages. Devant l'ogive d'entrée, un triste désert. Sur sa droite, André vit la ruelle indiquée par Melek, entre un couvent de derviches et un petit cimetière. Bien sinistre cette ruelle, où l'herbe verdissait les pavés. En arrivant sur la place de l'humble mosquée Tosunaga, il reconnut la grande maison, certainement hantée, qu'il fallait contourner. Personne non plus sur cette place, mais les hirondelles y chantaient le beau mois de mai. Une glycine y formait berceau, une de ces glycines comme on en voit qu'en Orient, avec des branches aussi grosses que des câbles de navire, et ces milliers de grappes commençaient à se teinter de violet tendre. Enfin l'impasse, plus funèbre que tout, avec son herbe par terre et ses pavés très en pénombre, sous les vieux balcons masqués d'impénétrables grillages. Personne, pas même d'hirondelle, et silence absolu. Le lieu a un peu l'air d'un coupe-gorge, avait écrit Melek en post-scriptum. Oh, oh, pour ça, oui. Quand on est un faux turc et en maraude, presque dans le dommage, cela gêne de s'avancer sous de tels balcons, d'où tant d'yeux invisibles pourraient observer. André marchait avec lenteur, égrenait son chapelet, regardant tout sans en avoir l'air, et comptait les portes closes. La cinquième a deux battants avec un frappoir de cuivre. Ah, celle-ci. Du reste, on venait de l'entrebâiller, et par la fente passait une petite main gantée qui tambourinait sur le bois, une petite main gantée à plusieurs boutons, très peu chez elle, à ce qu'il semblait, dans ce quartier farouche. Il ne fallait pas paraître indécis à cause de ses regards possibles. Avec assurance, donc, André poussa le battant et entra. Le fantôme noir embusqué derrière et qui avait bien la tournure de Melek referma vite à clé, tira le verrou en plus et dit gaiement « Ah, oh, vous avez trouvé! Montez! Mes sœurs sont là-haut qui vous attendent !» Il monta un escalier sans tapis, obscur et délabré. Là-haut, dans un pauvre petit harem tout simple, aux murailles nues, que les grilles en fer et les quadrillages en bois des fenêtres laissaient dans un triste demi-jour, il trouva les deux autres fantômes qui lui tendirent la main. Pour la première fois de sa vie, il était dans un harem, chose qui, avec son habitude de l'Orient, lui avait toujours paru l'impossibilité même. Il était derrière ces quadrillages des appartements de femmes, ces quadrillages si jaloux que les hommes, excepté le maître, ne voient jamais que du dehors. Et en bas, la porte était verrouillée, et cela se passait au cœur du vieux Istanbul, et dans quelle mystérieuse demeure. Il se demandait, avec une petite frayeur, pour lui si amusante, « Qu'est-ce que je fais ici ?» Tout le côté enfant de sa nature, tout le côté encore avide de sortir de soi-même, encore amoureux de se dépayser et changer, était servi au-delà de ses souhaits. Et pourtant, elle ressemblait à trois spectres de tragédie, les dames de son harem, aussi voilées que l'autre jour à Ayoub, et plus indéchiffrables que jamais avec le soleil en moins. Quant au harem lui-même, au lieu de luxe oriental, il n'était qu'une décente misère. Elles le firent asseoir sur un divan aux rayures fanées, et il promena les yeux alentour. Si pauvres qu'elles fussent, les dames d'Océan, elles étaient femmes de goût, car tout dans la simplicité extrême restait harmonieux et oriental. Nulle part de ces bibelots de pacotille allemande, qui commencent hélas à envahir les intérieurs turcs. « Je suis chez vous ?» demanda André. « Oh non !» répondirent-elles, d'un ton qui indiquait un vague sourire sous le voile. « Oui, pardonnez-moi, ma question était idiote, pour un tas de raisons. La première est que ça me serait égal, je suis avec vous, le reste m'importe guère. » Il les observait. Elles avaient leur même tchatchaf que l'autre sourd, en soie noire et limée par endroits. Et avec cela, chaussées comme des petites reines. Et puis, leurs gants ôtés, on voyait scintiller de belles pierres à leurs doigts. Qu'est-ce que c'était que ces femmes-là et qu'est-ce que c'était que cette maison ? Jedan demanda de sa voix de petite sirène blessée qui va mourir. Combien de temps pouvez-vous nous donner ? Oh, tout le temps que vous me donnerez vous-même. Oh, nous avons à peu près 2 heures de quasi-sécurité. Mais vous trouverez que c'est long, peut-être. Melek apportait un de ces tout petits guéridons en usage à Constantinople pour les dinettes que l'on offre toujours aux visiteurs. Café, bonbons et confiture de rose. La nappe était de satin blanc brodé d'or, avec des violettes de Parme naturelles jetées dessus. Le service était de filigrane d'or et cela complétait l'invraisemblance de tout. « Voici les photos d'Eyoub, lui dit-elle en le servant comme une mignonne esclave, mais elles sont manquées. Oh, nous recommencerons aujourd'hui même, puisque nous ne nous reverrons plus. Il y a peu de lumière, cependant, avec une pause plus longue. » Se disant, elle présentait 2 petites images confuses et grises, où la silhouette de Jenan se dessinait à peine, et André les accepta négligemment, loin de se douter du prix qu'il y attacherait plus tard. « C'est vrai ? » demanda-t-il, « que vous allez partir ?»«
Oui, très vrai. »«
Mais vous reviendrez et nous nous reverrons. » À quoi Jenan répondit par ce mot imprécis et fataliste que les Orientaux appliquent à toutes les choses de l'avenir. « Oh, Inch'Allah ! » Partirait-elle bien réellement ou était-ce pour mettre fin à l'audacieuse aventure ? Par crainte des lassitudes peut-être ou du terrible danger. Et André, qui en somme ne savait rien d'elle, les sentait fuyantes comme des visions, impossibles à retenir ou à retrouver le jour où leur fantaisie ne serait plus de le revoir. « Et ce sera bientôt votre départ ?» se risqua-t-il à demander encore.
Bon, « Dans 10 jours, sans doute. »
Alors, il vous reste le temps de me faire signe une autre fois. » Elle tinrent conseil à voix basse, en un turc elliptique, très mêlé de mots arabes, très difficile à entendre pour André.
« Oui, samedi prochain, dirent-elles, nous essaierons encore. Et merci de l'avoir désiré. Mais savez-vous bien tout ce qu'il nous faut déployer de ruses, acheter de complicité pour vous recevoir ?»
Cela pressait, paraît-il, les photos à cause d'un rayon de soleil renvoyé par la triste maison d'en face et qui jetait son reflet dans la petite salle grillée, mais qui remontait lentement vers les toits, prêt à fuir. On recommença 2 ou 3 pauses, toujours Jenan auprès d'André et toujours Jenan sous ses draperies noires d'élégie. « Et vous représentez-vous bien ?» leur dit-il. Ce que c'est nouveau pour moi, étrange et inquiétant presque, de causer avec des êtres aussi invisibles. Vos voix même sont comme masquées par ces triples voiles. À certains moments, il me vient de vous une vague frayeur. Mais c'était dans nos conventions, cela. que nous ne serions pour vous que des âmes.
Oui, mais les âmes se révèlent à une autre âme, surtout par l'expression des yeux.
Vos yeux à vous, je ne les imagine même pas.
Oh, je veux croire qu'ils sont francs et limpides, mais seraient-ils même effroyables comme ceux des goules? Je n'en saurais rien.
Non, je vous assure, cela me gêne, cela m'intimide et m'éloigne.
Au moins, faites une chose, confiez-moi vos portraits dévoilés.
Sur l'honneur, je vous les rends aussitôt, ou bien, si quelques drames nous séparent, je les brûle.
Elle demeure d'abord silencieuse, avec leurs longues hérédités musulmanes. Révéler son visage leur paraissait une chose malséante, et leur liaison avec André en devenait tout de suite plus coupable. Et enfin, ce fut Melek qui s'engagea délibérément pour ses sœurs, mais sur un ton un peu narquois, qui donnait à penser.
« Nos photos sont chaf-chaf ni yashmak, vous voulez ? Bien, bien, le temps de les faire, et la semaine prochaine, vous les aurez. »
Allez, et maintenant, asseyons-nous tous. La parole est à Jenan, qui a une grande prière à vous adresser.
Allumez une cigarette, vous vous ennuierez toujours moins.
C'est de notre part, cette prière, dit Jenan, et de la part de toutes nos sœurs de Turquie.
Monsieur Léry, prenez notre défense. Écrivez un livre en faveur de la pauvre musulmane du XXe siècle. Dites-le au monde, puisque vous le savez, qu'à présent nous avons une âme, et que ce n'est plus possible de nous briser comme des choses.
Si vous faites cela, nous serons des milliers à vous bénir. Voulez-vous ?
André demeurait silencieux, comme elle tout à l'heure, à la demande du portrait. Ce livre-là, il ne le voyait pas du tout. Et puis il s'était promis de faire l'oriental à Constantinople, de flâner et non d'écrire.
Oh, comme c'est difficile ce que vous attendiez de moi. Un livre voulant prouver quelque chose. Vous qui paraissez m'avoir bien lu et me connaître, vous trouvez que ça me ressemble? Et puis la musulmane du XXe siècle, est-ce que je la connais?
Nous vous documenterons. Vous allez partir. Nous vous écrirons.
Oh, vous savez, les lettres, les choses écrites. Je ne peux jamais raconter à peu près bien que ce que j'ai vu et vécu.
Nous reviendrons.
Alors vous vous compromettrez. On cherchera de qui je les tiens, ces documents-là. Et on finira bien par trouver.
Nous sommes prêts à nous sacrifier pour cette cause. Quel emploi meilleur pourrions-nous faire de nos pauvres petites existences lamentables et sans but? Nous voulions nous dévouer tous les droits à soulager les misères, fonder des œuvres comme les européennes. Mais cela même, on nous l'a refusé. Il faut rester oisive et cachée derrière des grilles. Eh bien, nous voulons être les inspiratrices du livre. Ce sera notre œuvre de charité, à nous, et tant pis s'il faut y perdre notre liberté ou la vie.
André essaya de se défendre encore. Mais pensez que je ne suis pas indépendant à Constantinople. J'occupe un poste dans une ambassade. Et puis, autre chose, je reçois de la part des Turcs une hospitalité si confiante. Et parmi ceux que vous appelez vos oppresseurs, j'ai des amis qui me sont très chers.
Voilà, par exemple, il faut choisir, eux ou nous, à prendre ou à laisser, décider.
C'est à ce point.
Alors, je choisis vous, naturellement. Et j'obéis.
Enfin.
Et elle lui tendit sa petite main, qu'il baisa avec respect. Ils causèrent presque 2 heures dans un semblant de sécurité qu'il n'avait encore jamais connu. « Mais n'êtes-vous pas des exceptions ?» demandait-il, étonné de les voir monter à ce diapason de désespérance et de révolte.
« Oh, nous sommes la règle. Prenez au hasard 20 femmes turques.
femme du monde, s'entend. Vous n'en trouverez pas une qui ne parle ainsi. Élevée en enfant prodige, en bas bleu, en poupée à musique, objet de luxe et de vanité pour notre père ou notre maître, et puis traitée en odalisque et en esclave, comme nos aïeuls il y a 100 ans. Mais nous n'en pouvons plus, nous n'en pouvons plus. Mais prenez garde si j'allais plaider votre cause à rebours, moi qui suis un homme du passé. Oh, j'en serais bien capable, allez. Guerre aux institutrices, aux professeurs transcendants, tous ces livres qui élargissent le champ de l'angoisse humaine. Retour à la paix heureuse des aïeuls. Eh bien, nous nous en contenterions à la rigueur de ce plaidoyer-là, d'autant plus que ce retour est impossible. On ne remonte pas le cours du temps. L'essentiel, pour qu'on s'émeuve et qu'on ait enfin pitié, c'est qu'on sente bien que nous sommes des martyrs, nous les femmes de transition entre celle d'hier et celle de demain. C'est cela qu'il faut arriver à faire entendre. Et après, vous serez notre amie à toutes. André espérait encore en quelque imprévu secourable pour être dispensé d'écrire leur livre. Mais ils subissaient avec ravissement le charme de leurs belles indignations, de leurs jolies voix qui vibraient de haine contre la tyrannie des hommes. Et ils s'habituaient peu à peu à ce qu'elles n'eussent point de visage. Pour lui apporter le feu de ses cigarettes ou lui servir la tasse microscopique où se boit le café turc, elles allaient et venaient autour de lui, élégantes, légères, exaltées, mais toujours fantômes noirs. Et quand elles se courbaient, leur voile de figure pendait comme une longue barbe de capucin que l'on aurait ajoutée par dérision à ces êtres de grâce et de jeunesse. La sécurité pour eux et cette impasse qui, en cas de surprise, eussent constitué une parfaite souricière. Si par hasard on entendait marcher dehors, sur les pavés sertis d'une herbe triste, elles regardaient inquiètes à travers les quadrillages protecteurs. Quelques vieux turbans qui rentraient chez lui, ou bien le marchand d'eau du quartier avec son outre sur les reins. Théoriquement, ils devaient s'appeler tous les trois par leur nom, sans plus. Mais aucun d'eux n'avait osé commencer, et ils ne s'appelaient pas. Une fois, ils eurent le grand frisson. Le frappoir de cuivre à la porte extérieure retentissait sous une main impatiente, menant un bruit terrible au milieu de ce silence des maisons mortes. Ils se précipitèrent tous aux fenêtres grillées. Une dame en charchave de soie noire, appuyée sur un bâton et l'air très courbé par les ans. « Oh, ce n'est rien de grave, » dirent-elles. « L'incident était prévu. Seulement, il va falloir qu'elle entre ici. »« Bon, alors je me cache. » « Oh non, ce n'est même pas nécessaire. Va, Melek, va lui ouvrir et lui dire ce qui est convenu. Elle ne fera que traverser, elle ne reparaîtra plus. Passant devant vous, peut-être demandera-t-elle en turc comment va le petit malade, et vous n'avez qu'à répondre, en turc aussi bien entendu, qu'il est beaucoup mieux depuis ce matin. » L'instant d'après, la vieille dame passa, voile baissée, tentant les modestes tapis du bout de sa canne béquille. À André, elle ne manqua bien de demander. « Eh bien, il va mieux, ce cher garçon ?»« Oh, beaucoup mieux, » répondit-il, « depuis ce matin surtout. »« Allons, merci, merci. » Puis elle disparut par une petite porte au fond du harem. André, d'ailleurs, ne sollicita aucune explication. Il était ici en pleine invraisemblance de conte oriental. Elle lui aurait dit « Une fée carabosse va sortir de dessous le divan, touchera le mur d'un coup de baguette et ça deviendra un palais » qu'il aurait admis sans plus de commentaires. Après le passage de la dame à bâton, il leur restait quelques minutes pour causer. Quand il fut l'heure, elles le congédièrent, avec promesse qu'on se reverrait une fois encore, au risque de tout.
Allez, notre ami, acheminez-vous jusqu'au bout de l'impasse, d'une allure lente et rêveuse, en jouant avec votre chapelet. À travers les grillages, nous surveillons toutes les trois la dignité de votre sortie.
Chapitre 14. Un vieil eunuque, furtif et muet, le jeudi suivant, apporta chez André un avis de rendez-vous pour le surlendemain, au même lieu, à la même heure, et aussi des grands cartons sous plis soigneusement cachetés. « Ah !» se dit-il, « les photos qu'elle m'avait promises !» Et dans l'impatience de connaître enfin leurs yeux, il déchira l'enveloppe. C'était bien trois portraits, sans tchatchaf ni yashmak, et dûment signés, s'il vous plaît, en français et en turc, l'un Jenan, l'autre Zeyneb, le troisième Melek. Ses amis avaient même fait toilette pour se présenter. Des belles robes du soir, décolletées, tout à fait parisiennes. Mais Zeyneb et Melek étaient vus de dos, très exactement, ne laissant paraître que le rebord à l'envers de leurs petites oreilles. Quant à Jenan, la seule qui se montra de face, elle tenait sur son visage un éventail en plumes qui cachait tout, même les cheveux. Le samedi, dans la maison mystérieuse qui les réunit une seconde fois, il ne se passa rien de tragique et aucune fée Carabos ne leur apparut. « Nous sommes ici, expliqua Jenan, chez ma bonne nourrice, qui n'a jamais su rien me refuser. L'enfant malade, c'était son fils. La vieille dame, c'était sa mère. Akimelech, vous avez annoncé comme un médecin nouveau. Comprenez-vous la trame ? Oh, j'ai du remords pourtant de lui faire jouer un rôle si dangereux. Mais puisque c'est notre dernier jour... » Ils causèrent 2 heures, sans parler cette fois du livre. Sans doute craignait-elle de le lasser en y revenant trop. Du reste, il s'était engagé, c'était donc un point acquis. Et ils avaient tant d'autres choses à se dire, tout un arriéré de choses, semblait-il, car c'était vrai que depuis longtemps, il vivait en sa compagnie, par ses livres, et c'était un des cas rares où lui... En général, si agacé maintenant de s'être livré à des milliers de gens quelconques, ne regrettait aucune de ses plus intimes confidences. Après tout, combien négligeable le haussement d'épaules de ceux qui ne comprennent pas, auprès de ces affections ardentes que l'on éveille çà et là, aux deux bouts du monde, dans des âmes de femmes inconnues, et qui sont peut-être la seule raison que l'on ait d'écrire. Aujourd'hui, il avait confiance... entente et amitié sans nuages, entre André Léry et les trois petits fantômes de son harem. Elle savait beaucoup de lui par leur lecture, et comme lui ne savait rien d'elle, il écoutait plus qu'il ne parlait. Zeyneb et Melek racontèrent leur décevant mariage et l'enfermement sans espérance de leur avenir. Jenan, au contraire, ne livra encore rien de précis sur elle-même. Et en plus des sympathies confiantes qui les avaient si vite rapprochées, il y avait une surprise qu'ils se faisaient les uns aux autres, celle d'être gais. André se laissait charmer par cette gaieté de race et de jeunesse qui leur était restée envers et contre tout et qu'elle montrait mieux à présent qu'il ne les intimidait plus. Et lui, qu'elle s'était imaginé sombre, et qu'on leur avait annoncé comme si hautain et glacial, oh, voici qu'il avait ôté tout de suite pour elle ce masque-là, et qui leur apparaissait très simple, riant volontiers à propos de tout, resté au fond beaucoup plus jeune que son âge, avec même une pointe d'enfantillage mystificateur. C'était la première fois qu'il causait avec des femmes turques du monde, et elles, jamais de leur vie, n'avaient causé avec un homme, quel qu'il fût. Dans ce petit logis de vétusté et d'ombre perdu au cœur du vieux Stamboul, environné de ruines et de sépultures, il réalisait l'impossible rien qu'en se réunissant pour échanger des pensées. Et ils s'étonnaient, étant les uns pour les autres des éléments si nouveaux, ils s'étonnaient de ne pas se trouver très dissemblables. Mais non, au contraire, en parfaite communion d'idées et d'impressions, comme des amis s'étaient toujours connus. Elle, tout ce qu'elle savait de la vie en général, des choses d'Europe, de l'évolution des esprits par là-bas, elle l'avait appris dans la solitude avec des livres. Et aujourd'hui, causant par miracle avec un homme d'Occident et un homme au nom connu, elle se trouvait de niveau. Et lui les traitait comme des égales, comme des intelligences, comme des âmes, ce qui leur apportait une sorte de griserie de l'esprit jusque-là inéprouvée. Zeynep était aujourd'hui celle qui faisait le service de la dinette sur la petite table couverte, cette fois d'une nappe de satin vert et argent, et semé de roses naturelles, rouges. Quant à Jenan, elle se tenait de plus en plus immobile, assise à l'écart, ne remont pas un pli de ses voiles d'élégie. Elle causait peut-être davantage que les autres, et surtout interrogeait avec plus de profondeur. Mais ne bougeait pas, s'étudiait, semblait-il, à rester la plus intangible des trois, physiquement parlant, la plus inexistante. Une fois pourtant, son bras soulevant le tchatchaf laissa entrevoir une de ses manches de robe très large, très bouillonnée à la mode de ce printemps-là, et faite en une gaze de soie jaune citron à pâle dessin vert, deux teintes qui devaient rester dans les yeux d'André comme pièces à conviction pour le lendemain. Autour d'eux, tout était plus triste que la semaine passée, car le froid était revenu en plein mois de mai. On entendait le vent de la mer Noire siffler aux portes comme en hiver. Tout Stamboul frissonnait sous un ciel plein de nuages obscurs. Et dans l'humble petit harem grillé, on aurait dit le crépuscule. Soudain, à la porte extérieure, le frappoir de cuir, toujours inquiétant, les fit tressaillir.
« Oh, c'est elle !» dit Melek, tout de suite penché pour regarder à travers les grillages de la fenêtre. « C'est elle ! Elles ont pu s'échapper ! Je suis contente !»
Elle descendit en courant pour ouvrir, et bientôt remonta, précédée de deux autres dominos noirs, à voile impénétrable, qui semblaient eux aussi élégants et jeunes.
« Monsieur André Léry, présenta Jenan, deux de mes amis, oh leur nom ça vous est égal, n'est-ce pas ?»« Deux dames fantômes, tout simplement, » ajoutèrent les arrivantes, appuyant à dessein sur ce mot dont André avait abusé peut-être dans un de ses derniers livres.
Et elles lui tendirent des petites mains gantées de blanc. Elle parlait du reste français avec des voix très douces et une aisance parfaite, ces deux nouvelles ombres.
« Nos amis nous ont annoncé, dit l'une, que vous alliez écrire un livre en faveur de la musulmane du XXe siècle, et nous avons voulu vous en remercier. « Comment cela s'appellera-t-il ? » demanda l'autre, en s'asseyant avec une grâce languissante sur l'humble divan décoloré.
« Oh mon Dieu, je n'y ai pas songé encore. C'est un projet si récent et pour lequel on m'a un peu forcé la main, je l'avoue. Nous allons mettre le titre au concours, si vous voulez bien, voyons. Moi, je proposerais « Les Désenchantés ».«
Les Désenchantés », répéta Jenan avec lenteur. « Mais on est désenchantés de la vie quand on a vécu, mais nous, au contraire, qui ne demanderions qu'à vivre. Mais ce n'est pas désenchantés que nous sommes, c'est annihilé, séquestré, étouffé. Eh bien voilà, je l'ai trouvé le titre, s'écria la petite Melek, qui n'était pas du tout sérieuse aujourd'hui. Que diriez-vous de les étouffer? Et puis ça peindrait si bien notre état d'âme sous les voiles épais que nous mettons pour nous recevoir, monsieur Léry, car vous n'imaginez pas ce que c'est pénible de respirer là-dessous. Mais justement, j'allais vous demander pourquoi vous les mettiez. En présence de votre ami, vous ne pourriez pas vous contenter d'être comme toutes celles que l'on croise à Stamboul, voilées, oui, mais avec une certaine transparence, laissant deviner quelque chose,
le profil, l'arcade sourcilière, les prunelles parfois. Oh, tandis que vous, moins que rien. Ce n'a pas l'air comme il faut du tout d'être si caché que ça. Règle générale, quand vous rencontrez dans la rue une mystérieuse à triple voile, vous pouvez dire « celle-ci va où elle ne devrait pas aller ». Exemple nous du reste. Et c'est tellement connu que les autres femmes sur son passage sourient et se poussent le coude. « Voyons, Melek, reprocha doucement le Génan, ne fais pas des potins comme une petite perrotte. Les désenchantés, oui, la consonance serait jolie, mais le sort c'est un peu à côté. Mais voici comment je l'entendais. Rappelez-vous les belles légendes du vieux temps, la valkyrie qui dormait dans son bourg souterrain, la princesse au bois dormant qui dormait dans son château au milieu de la forêt. Mais hélas, on brisa l'enchantement et elles s'éveillèrent. Eh bien, vous, les musulmanes, vous dormiez depuis des siècles d'un si tranquille sommeil, gardé par les traditions et les dogmes. Mais soudain, le mauvais enchanteur, qui est le souffle d'Occident, a passé sur vous et rompu le charme. Et toutes en même temps, vous vous éveillez au mal de vivre, à la souffrance de savoir. Jenan, cependant, ne se rendait qu'à moitié. Visiblement, elle avait un titre à elle, mais ne voulait pas le dire encore. Les nouvelles venues étaient aussi des révoltées et à outrance. On s'occupait beaucoup à Constantinople, ce printemps-là, d'une jeune femme du monde qui s'était évadée vers Paris. L'aventure tournait les têtes dans les harems et ces deux petites dames fantômes en rêvaient dangereusement. « Vous, leur disait Jenan, peut-être trouveriez-vous le bonheur là-bas, parce que vous avez dans le sang des hérédités occidentales. » Oui, leur aïeul, M. Léry, était une Française qui vint à Constantinople, épousa un Turc et embrasse l'islam. « Mais moi, mes Zeneb, mes Melek, quitter notre Turquie ? Ah non, pour nous trois, c'est un moyen de délivrance à écarter. » De pires humiliations encore, s'il le faut, un pire esclavage. Mais mourir ici et dormir à Youm. Et comme vous avez raison, conclut André. Elle disait toujours qu'elles allaient s'absenter, partir pour un temps. Était-ce vrai? Mais André, en les quittant cette fois, emportait la certitude de les revoir. Il les tenait à présent par ce livre, et peut-être par quelque chose de plus aussi, par un lien d'ordre encore indéfinissable, mais déjà résistant et doux, qui commençait de se former surtout entre Jenan et lui. Melek, qui s'était institué l'étonnant petit portier de cette maison à surprise, fut chargé de le reconduire. Et pendant le court tête-à-tête avec elle, dans l'obscur couloir délabré, il lui reprocha vertement la mystification des photos sans visage. Elle ne répondit rien, continua de le suivre jusqu'au milieu du vieil escalier sombre, pour surveiller de là s'il trouverait bien la manière de faire jouer les verrous et la serrure de la porte extérieure. Et quand il se retourna sur le seuil pour lui envoyer son adieu, il la vit là-haut, qui lui souriait de toutes ses jolies dents blanches, qui lui souriait de son petit nez en l'air, moqueur, sans méchanceté, et de ses beaux grands yeux gris, et de tout son délicieux petit visage de 20 ans. À deux mains, elle tenait relevé son voile jusqu'aux boucles d'or roux qui lui encadraient le front. Et son sourire disait, « Eh bien oui, là, c'est moi, Melek, votre petit ami Melek, que je vous présente. Moi d'ailleurs, ce n'est pas comme si c'était les autres. Jenan, par exemple. Oh, moi, ça n'a aucune importance. Allez, bonjour, André Léry, bonjour. » Ce fut le temps d'un éclair et le voile noir retomba. André lui cria doucement merci en turc, car il était déjà presque dehors, s'engageant dans l'espace funèbre. Dehors, on avait froid sous ces nuages épais et ce vent de Russie. La tombée du jour se faisait lugubre comme en décembre. C'était par ces temps que Stamboul, d'une façon plus poignante, lui rappelait sa jeunesse, car le court enivrement de son séjour à Eyoub, autrefois, avait eu l'hiver pour cadre. Quand il traversa la place déserte, devant la grande mosquée de Sultan Selim, il se souvint tout à coup, avec une netteté cruelle, de l'avoir traversée, à cette même heure et dans cette même solitude, par un pareil vent du nord, un soir gris, d'il y avait 25 ans. Alors, ce fut l'image de la chère petite morte qui va tout à coup balayer entièrement celle d'El Jenan. Chapitre 15. Le lendemain, il passait par hasard à pied dans la grande rue de Péra, en compagnie d'aimables gens de son ambassade, qui s'y étaient fourvoyés aussi, les saintes et le gars, avec lesquels il commençait de se lier beaucoup. Un coupé noir vint à les croiser, dans lequel il aperçut distraitement la forme d'une turque en tcharchaf. Madame de Saint-Enega fit un salut discret à la dame voilée, qui aussitôt ferma un peu nerveusement le store de sa voiture, et dans ce mouvement brusque, André aperçut, sous le tcharchaf, une manche en une soie couleur citron à dessin vert qu'il était sûr d'avoir vu la veille. « Quoi, vous saluez une dame turque dans la rue ?» dit-il. « Oui, bien incorrect, en effet, ce que je viens de faire, surtout étant avec vous et mon mari. »« Et qui est-ce ?»« Oh, Jenan Tevfik Pacha, une des fleurs d'élégance de la jeunesse turque. »« Oh, et jolie, oh, plus que jolie, ravissante, et riche à en juger par l'équipage. » Oui, on dit qu'elle possède en Asie la valeur d'une province. Justement, une de vos admiratrices, cher maître. Elle appuyait narquoisement sur le cher maître, sachant que ce titre l'horripilait. La semaine dernière, à la légation de, on avait licencié pour l'après-midi tous les domestiques mâles. Vous vous rappelez, afin de donner un thé sans homme, où des Turcs pourraient venir. Bien, elle était venue. Et une femme vous bêchait, mais vous bêchait. Vous. Oh Dieu, non, non, ça ne m'amuse que quand vous êtes là. C'était la comtesse Da. Eh bien, madame Tervik Pacha a pris votre défense, mais avec un élan. Oh, je trouve d'ailleurs qu'elle a l'air de bien vous intéresser. Bon, oh, comment voulez-vous ? Une femme turque, vous savez bien que pour nous, ça n'existe pas. Non, mais j'ai remarqué ce coupé, très comme il faut, que je rencontre souvent. Souvent ? Eh bien, vous avez de la chance, elle ne sort jamais. Mais si, et généralement, je vois deux autres femmes de tournure jeune avec elle. Ah oui, peut-être ses cousines, les petites Mehmet Bey, les filles de l'ancien ministre. Et comment s'appellent ces petites Mehmet Bey ? L'aînée Zeynep, l'autre Mélek, je crois. Madame de Saint-Enoga avait sans doute flairé quelque chose, mais beaucoup trop gentille et trop sûre pour être dangereuse.